Vous êtes sur Art District Radio et c'est l'heure de retrouver Luc Seabright dans Jazz Interview pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Bonjour à tous et bienvenue sur Art District Radio, vous écoutez le programme Jazz Interview. Et aujourd'hui, j'ai au téléphone avec moi Jérôme Sabag. Salut Jérôme, comment vas-tu ?
Bien et toi ?
Très très bien, je suis très content que tu sois ici avec nous. Dis-moi, tu nous appelles d'où ?
Je suis à Rome, en Italie.
D'accord, donc ça c'est, tu fais une tournée en Europe en ce moment ?
Je fais une tournée en Europe avec des groupes différents. Là, j'avais 3 concerts en Italie, un en duo avec Laurent Koch, à Cortona, en Toscane, dans le festival, et un à Formia et l'autre à Rome, hier soir, avec un batteur australien qui vit à Rome, qui s'appelle Adam Pash, et un contiste italien, Francesco Pugliesi.
D'accord, et du coup, après l'Italie, tu seras en France ?
Je serai en France, tout à fait. Je fais un autre concert avec Laurent du côté de Metz. Je joue aussi avec un jeune batteur français qui s'appelle Jacques Mama à Thionville. Et le dernier concert de la tournée sera le mercredi 9 mai à Paris, à la Pénichenaco, avec un groupe qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est le trio de mon disque I Will Follow You, avec Ben Mander, avec lequel je joue depuis une douzaine d'années, et Daniel Humer, qui est, qu'on ne présente plus vraiment, mais qui est une des légendes du jazz, et avec lequel c'est toujours un immense plaisir de jouer.
Exactement, du coup c'est le mercredi 9 mai, il y a 2 sets, du coup à 20h, 21h30, c'est la Pénichenaco dans le bassin de la Villette à Paris. Et donc oui, ce trio d'exceptions qui sont, ouais, du coup tu l'as mentionné, des musiciens que tu connais depuis longtemps, Ben notamment, puisque vous avez enregistré ensemble sur tes albums en quartet, dont d'ailleurs ton tout dernier The Turn, qui est sorti en 2014. Et est-ce que oui, tu peux nous parler un peu plus de justement l'histoire de votre collaboration, comment tu as rencontré Ben, comment tu as commencé à travailler avec Daniel ?
Alors Ben, j'habite New York, c'est quand même une des références de la guitare là-bas, donc ça faisait longtemps, même avant de jouer avec lui, que je savais évidemment qui il était, que j'avais envie de jouer avec lui, et on s'est retrouvés dans le groupe de quelqu'un d'autre, qui est un compositeur argentin, Pablo Ablanedo. C'est là que j'ai rencontré Ben la première fois. Après, on a commencé à jouer ensemble aussi dans le groupe de Guillermo Klein, autre compositeur argentin que j'aime beaucoup, dans le groupe duquel j'ai remplacé. Et j'ai fini par appeler Ben pour faire un quartet. En fait, j'avais depuis longtemps l'idée de faire un quartet avec guitare. J'avais essayé plusieurs guitaristes, et finalement j'ai demandé à Ben, et là tout de suite il y a quelque chose qui a cliqué, et j'ai su que c'était avec lui que je voulais vraiment faire le groupe. Donc ce groupe, on a fait 3 disques, le premier s'appelle North, le deuxième Pogo, le troisième The Turn, et on a fait beaucoup de tournées en Europe. On joue aussi régulièrement à New York, et ça a été mon groupe principal, c'est toujours mon groupe principal depuis une bonne douzaine d'années. Daniel, on était sur le même label, B-Jazz, label français qui malheureusement n'existe plus. Moi je suivais son travail depuis que je suis adolescent, j'ai grandi à Paris, donc je l'ai entendu plein de fois, notamment avec le trio, avec Jean-François Gianni Clark à la contrebasse et Joachim Kuhn au piano. Mais bon, pas qu'avec eux, je l'ai entendu, enfin c'est quelqu'un que j'entends depuis longtemps, ayant grandi à Paris, et ayant eu l'occasion de le voir jouer de manière régulière. Après, il y a un album qui a fait pour B-Jazz qui s'appelle Full Contact, avec justement Kuhn et Tony Malaby. Et à l'époque, quand j'ai écouté ça, c'est un album qui m'a marqué. Du coup, c'est cet album en fait qui m'a donné l'idée de travailler avec Daniel, et aussi de le faire dans un contexte sans contrebasse. Et évidemment, j'ai pensé à Ben tout de suite parce que on se connaît depuis très longtemps, on joue ensemble de manière régulière et il a une palette harmonique, sonore, rythmique qui est inégalée. Du coup, j'ai pensé que ça marcherait bien avec Daniel. Et de fait, enfin, je pense que ça marche très bien avec Daniel. Et quand on a fait le disque, on s'est retrouvé pour la première fois en studio et tout de suite, les choses se sont bien passées.
Ben, on va en écouter justement de cet album et cette idée de ne pas avoir de contrebasse, est-ce que ça c'était un format que tu avais déjà exploré ou est-ce que c'est la première fois que tu faisais ça?
C'est la première fois que j'enregistrais avec un format comme ça, ça c'est sûr. C'est pas un format avec lequel je travaille régulièrement. Ça m'était certainement arrivé de travailler sans contrebasse aussi. Mais là, c'est vrai que c'était globalement quelque chose de nouveau pour moi. Et c'était quelque chose que j'avais, c'était vraiment une formule que j'avais trouvée pour précisément faire quelque chose avec Daniel et Ben. C'est-à-dire que c'est en pensant à eux, c'était pas forcément le désir de jouer sans contrebasse, c'était plus le désir de trouver la formule la plus appropriée ouais. pour faire quelque chose avec Ben et Daniel. Mmh. Et il se trouve que pour moi, il m'a semblé que c'était celle-là.
Du coup, vous avez enregistré une fois ensemble, c'était en 2010 pour I Will Follow You, c'était donc il y a 8 ans. Est-ce que selon toi, l'identité du groupe a évolué en quelque sorte depuis ce moment-là?
Oui et non, oui, dans le sens où on évolue toujours en tant que musicien, on travaille, on continue de jouer avec des gens, on fait des découvertes, on écrit de la musique. Donc oui, on évolue chacun de notre côté. Après, il y a aussi un terrain commun qui est celui du disque et celui de l'improvisation, on va dire, assez libre en général. Et on se situe toujours sur ce terrain quand on rejoue. Et d'ailleurs, depuis le disque, on a joué régulièrement, pas de manière très fréquente, mais quand même, au fil des ans, on a joué plusieurs fois. En France et du coup ben, je pense que c'est à la fois une évolution et à la fois il y a un terrain commun qui reste à peu près le même.
Et est-ce qu'il y a un projet d'enregistrement?
Pas pour l'instant, mais j'aimerais bien. Ce serait bien de documenter ce trio une fois de plus. Donc, qui sait, oui. Avis aux producteurs s'il y en a encore, si ça nous intéresse.
Ok. Bon, ben, profitons-en pour écouter justement un morceau de cet album I Will Follow You. On va écouter Saloon. Voilà, c'était donc le morceau Saloon, extrait de l'album I Will Follow You de Jérôme, enfin du trio de Jérôme Sabag avec Ben Mander et Daniel Humer à la batterie, Ben Mander à la guitare. J'ai Jérôme Sabag au téléphone avec moi. Et justement, donc j'ai choisi celui-là parce que c'est un exemple où on voit Ben un peu à son plus explosif. Mais bon, ce qui est très intéressant, tu l'as déjà mentionné sur cet album, c'est toute la variété de la palette en fait de Ben dans les couleurs et les textures qu'il crée à la guitare. Et tu as parlé aussi de cette approche de l'improvisation libre et spontanée. Et d'ailleurs, ce morceau, c'est un exemple de parmi, il me semble que plus ou moins la moitié des morceaux sur cet album sont des improvisations libres.
Oui, exactement.
Et donc, ben, je suis toujours curieux d'essayer de comprendre chez un groupe, en particulier un groupe qui met l'emphase sur et qui donne beaucoup de place à l'improvisation spontanée, d'essayer de comprendre un peu l'approche, un peu la philosophie du groupe. Donc, quand on aborde une improvisation comme celle-ci, quand vous l'abordez, comment est-ce que vous vous y prenez? Est-ce qu'il y a des bribes d'idées mélodiques et harmoniques que vous développez ensuite de manière organique? Est-ce que vous discutez avant de la direction du morceau? Ou est-ce qu'au contraire, vous y allez sans préconception et ça se construit sur le coup?
Généralement, ça se construit sur le coup. Après, il y a toujours des éléments harmoniques, rythmiques, mélodiques qui sont là. Simplement, on les trouve sur le moment. Et après, une fois qu'on reconnaît quelque chose qui peut être une voie de développement, eh ben, on la développe. Mais c'est quelque chose qui arrive sur le moment. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait quelque chose. Et après, ça devient un matériau qu'on peut façonner, se passer de l'un à l'autre, construire ensemble, etc. Donc généralement, c'est ça qui se passe. On n'a pas vraiment d'idée préconçue, on se dit pas on va faire ça, après on va faire ça, après on va faire ça. Et on commence à jouer et il se passe ce qui se passe. Après, chacun a aussi l'expérience d'improvisation libre, mais aussi de l'improvisation structurée. Et en fait, je pense que le fait d'avoir joué pendant longtemps pour Daniel et aussi pour Ben et moi de continuer, enfin et pour Daniel aussi hein, d'ailleurs, de continuer à jouer sur des formes, ça donne aussi une conception un peu formelle, instinctive de l'improvisation, à savoir on a des éléments auxquels se raccrocher et on a quand même une espèce de sens de l'architecture du morceau, d'essayer de commencer quelque part et que ça évolue et que ça évolue de manière organique, mais d'arriver quelque part. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, je pense que Daniel est particulièrement bon pour ces choses-là, parce qu'il a vraiment un sens de l'architecture, de la forme, d'arriver, de faire évoluer un morceau, et à la batterie, il a vraiment les moyens de donner une forme à une improvisation, parce que la batterie, c'est ce qui a, bon, la guitare et le saxophone aussi, mais quand même plus la batterie, c'est ce qui a le plus de volume, c'est ce qui a peut-être, c'est ce qui donne le son du groupe de manière plus affirmée. Du coup, là, c'est énormément quand même sur lui que ça repose en termes de qu'est-ce qu'on fait dans le morceau. Est-ce que là, tout d'un coup, on continue à développer le matériau qu'on travaille? Est-ce qu'on passe sur autre chose? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on prend un autre thème, quitte à revenir au premier thème? Est-ce que là, fort, est-ce qu'on joue plus doucement, est-ce qu'il joue juste avec Ben, est-ce qu'il va arrêter de jouer pour que Ben et moi on fasse un truc. Bon, il y a plein d'options, il y a plein de choix en fait qui se font de manière instinctive sur le moment et qui donnent en fait une forme à quelque chose qui reste libre et organique. Donc l'idée c'est d'avoir à la fois quelque chose de libre et d'organique et à la fois, oui, il y a des éléments formels qui sont quasiment instinctifs mais qui sont. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est intéressant, d'ailleurs.
Ouais. Et puis, la clé de voûte, un peu, dans tout ça, c'est bien évidemment l'écoute, en fait, assidue de ses partenaires.
Oui. C'est-à-dire l'idée d'être dans le moment, d'être connecté avec son champ intérieur et d'être aussi connecté avec ce que les autres font. Et l'idée de à la fois d'être soi-même, d'être en contrôle et d'avoir à la fois la musique qui passe à travers vous et de sentir ça aussi au sein du collectif. Et c'est que moins on est, plus le courant peut passer de manière directe. C'est aussi pour ça que le trio me plaisait. C'était pas seulement l'absence contrebasse en termes de fonction, c'était aussi le fait de resserrer les liens entre un nombre petit d'improvisateurs pour que la communication se fasse de manière d'autant plus directe et plus efficace.
Et quand vous jouez en concert, par exemple mercredi 9 mai, quand vous allez jouer à la Péniche, est-ce que, pareil, vous allez lancer des sections d'improvisation nouvelles, donc des thèmes qui ne vous sont pas familiers du tout ?
Oui. C'est même par ça qu'on va commencer. C'est-à-dire que, en fait, chaque concert qu'on a fait, je pense qu'on a commencé par improviser complètement et après. C'est une manière de se retrouver, et c'est une manière de commencer à explorer ensemble. Donc oui, le premier morceau du concert, je ne saurais pas vous dire ce que ça va être.
Super. Bon, ben, écoutons un autre morceau de l'album. Je vous propose d'écouter Haïku.
Thank you.
Voilà, c'était donc Haiku, extrait de l'album I Will Follow You du trio Jérôme Sabag, Ben Mander et Daniel Humer. Ce trio joue le mercredi 9 mai à la Péniche Anaco à Paris. Donc là, contrairement au morceau qu'on a écouté avant, il s'agit d'une mélodie qui a été composée par toi. Et d'ailleurs, le morceau s'appelle Haiku. On a cette structure en trois phrases de 5, 7 et 5 notes. Donc là, du coup, c'est une approche un peu différente. Il y a une mélodie composée qui donne le ton, mais n'impose pas forcément une structure harmonique ou un tempo.
Oui. C'est-à-dire, et en fait, les morceaux que j'ai écrits pour ce disque et spécialement pour ce groupe sont en gros tous comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un thème qui est une mélodie généralement. Il n'y a pas vraiment d'obligé rythmique ou harmonique. Et après, ce thème donne le ton. Mais il peut se passer un tas de choses différentes après. C'est-à-dire qu'après, c'est complètement ouvert, on fait le thème donne une vibe, et après, ou bien on prend cette vibe pour développer, ou bien on fait un contraste, ou bien quelque chose se passe, on s'écoute, et on revient au thème ou à une bribe du thème à la fin. Et en fait, ce sont des morceaux que j'ai écrits pour Ben, pour Daniel, pour le disque I Will Follow You, parce que c'était, je voulais qu'on puisse, même au sein des morceaux que j'ai composés, garder cette liberté et ne pas être astreint à une forme particulièrement harmonique ou rythmique. Et en fait, c'est relativement nouveau pour moi, parce que j'avais écrit des morceaux comme ça avant, quelques-uns, mais j'avais jamais fait tout un disque de morceaux ou bien improvisation libre ou bien juste avec un thème au début, après ouvert et un thème de fin.
Donc l'idée de Haiku, en fait, ce qui m'a intéressé aussi sur l'album, c'est qu'il y a beaucoup de morceaux en fait qui sont des sortes de haïku musicaux en fait, avec qui sont de formes assez courtes. Une sorte de poème musical de court. Il y a beaucoup de morceaux qui sont de 2 minutes, 2 minutes 30. Bon, d'ailleurs, le morceau qu'on vient d'écouter, Haiku, justement, c'est pas un bon exemple, puisque c'est le morceau le plus long de l'album, à plus de 5 minutes. Mais est-ce que c'était voulu, ça, ce format assez court, ou est-ce que ça s'est fait naturellement?
Ça s'est fait naturellement, j'avais pas calculé les durées. Après, je pense qu'une des qualités de Daniel, notamment, c'est... comme il a une grande expérience de l'improvisation libre, je pense qu'il voit quand passer à autre chose, quand s'arrêter, ouais. Et il prend des tournants qui peuvent être assez radicaux des fois. C'est-à-dire que des fois, ça m'est arrivé de penser en concert que tiens, j'aurais bien continué là, mais en fait, Daniel a pris un tournant et il s'est arrêté ou il a fait autre chose. Et en fait, en réécoutant, je m'aperçois quasiment toujours que c'est lui qui avait raison, à savoir que c'est lui qui avait pris la décision, je pense. Je pense que pour que cette musique soit efficace, c'est trouver un équilibre. C'est-à-dire, il faut aussi développer le matériau suffisamment pour qu'il se passe quelque chose et qu'on n'ait pas l'impression que la musique soit avortée en permanence. Mais en même temps, il faut pas non plus laisser trop traîner et que les choses se délitent et que ça devienne plus faible et plus délégué. Du coup, je pense que particulièrement en studio, il y a peut-être une conscience de faire des choses un peu ramassées, de manière à pouvoir emmener l'auditeur d'un morceau à l'autre, d'un espace à l'autre, sans qu'on commence, ouais, à s'ennuyer, en fait.
Ok, bon, malheureusement, on n'a plus trop de temps, donc je veux juste terminer en parlant d'un nouvel album que tu as enregistré avec un quartet. L'album s'appelle No Filter, il a été enregistré et tu as une campagne Kickstarter pour le presser en vinyle. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce projet et des artistes dont tu t'es entouré?
Alors, c'est un projet que je co-dirige avec mon ami Greg Twee, qui est guitariste néo-zélandais, qui vit à New York depuis aussi longtemps que moi, à savoir 23 ans. On a tous les deux déménagé à New York en 1995. Et on a fait notre premier disque au sein d'un collectif qui s'appelle Flipside en 1997, sur Naxos Jazz, avec Darren Beckett à la batterie et Matt Penman à la contrebasse. Donc Greg et moi avons recommencé à jouer ensemble, et là il s'agit d'un quartet avec Joe Martin à la contrebasse et Kush Abadi à la batterie. Greg écrit la moitié de la musique, j'ai écrit l'autre moitié. Là c'est sur des formes, c'est plus traditionnel, c'est aussi influencé par la pop et par les chansons, par d'autres choses. C'est-à-dire c'est du jazz pas forcément très traditionnel au sens swing, standard, etc. Mais on va dire, aux États-Unis, ils appelleraient ça modern mainstream ou quelque chose de ça, ouais. Je pense. Donc voilà, No Filters a été enregistré. J'ai effectivement lancé une campagne Kickstarter, donc de crowdfunding, financement participatif, pour le presser en vinyle, sachant que l'album a été enregistré sur bande analogique, ce qui est assez rare de nos jours.
Ouais.
Le Kickstarter en fait est fini, on a atteint notre but, et l'album va donc être pressé directement des bandes magnétiques en vinyle. On peut le précommander sur mon site web jeromesabac.com, et il va sortir sur Sonyside en octobre. Voilà, alors ce qui était intéressant sur les bandes et le Kickstarter, c'est que j'ai fait ça sur The Turn, donc mon dernier disque en quartet avec Ben Mander, et j'ai eu de très bonnes chroniques, notamment dans la presse audiophile. Et du coup, j'ai tout un tas de gens qui me suivent à cause de ça, et qui ont découvert ma musique par le biais en fait de D'accord. l'audio et de l'enregistrement, et qui maintenant sont devenus un peu des fans de ce que je fais, mais qui n'auraient pas D'accord. forcément su qui je suis s'ils n'avaient pas été regardés à cause de ça. Donc voilà. Et par ailleurs, moi aussi je suis audiophile, j'aime les disques bien enregistrés. Je pense qu'à l'époque de Spotify, du streaming, d'une qualité sonore qui est de moins en moins bonne, en fait, je pense que ça peut être quelque chose d'important d'essayer de faire un disque un peu comme on faisait auparavant, avec le meilleur son possible.
Le vinyle revient en force, hein. C'est aussi parce que je pense que beaucoup d'auditeurs sont sensibles à ça, justement, et cette qualité audio du vinyle, beaucoup de gens la recherchent.
Je pense, et ça peut être une clé même de financement pour faire exister des projets en jazz, par exemple. Parce qu'on peut pas gagner, il n'est pas possible de financer des projets juste avec le streaming. C'est impossible. Donc si on arrive à faire un disque bien enregistré, que les gens s'y intéressent et sont prêts à payer 15, 20, 22 euros pour un vinyle, là on a peut-être une clé qui permet de financer le prochain album. En tout cas, moi c'est ce que j'essaie de faire.
Ok, bon ben Jérôme, merci beaucoup, on doit terminer là. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de parler avec toi, et je te souhaite une très bonne continuation et un bon concert le 9 mai.
Merci beaucoup.
C'était donc Jérôme Sabag, saxophoniste français basé à New York, qui jouera donc le 9 mai à la Péniche Anaco à Paris, dans le bassin de la Villette. 2-7 à 20h et 21h30 avec le trio d'exception, avec Ben Monder à la guitare et Daniel Humer à la batterie. Merci encore Jérôme, et merci. Je suis Luc Sibright, vous écoutiez le programme Jazz Interview sur Art District Radio. Merci.
C'était Jazz Interview avec Luc Sibright. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site internet artdistrict-radio.com. Très belle journée, à notre écoute.